Nous reprenons, si vous voulez bien. Notre invitée aujourd'hui est Elisabeth Leidensen, que je connais depuis longtemps, puisqu'elle a été mon étudiante, l'une des plus brillantes, lorsqu'elle a fait sa maîtrise sous ma direction sur Baudelaire et Proust, sur le thème de la passante, il y a quelques années. Et puis une très belle thèse sur Proust et Madame de Sévigné, intitulée The Law of the Letter, la loi de la lettre. Et puis un beau livre sur Proust, hein, qui est intitulé en anglais Proust's Lesbianism, en français Proust lesbien, publié en anglais en 1999 et en français en 2004. Son dernier livre est publié il y a quelques mois aux États-Unis est intitulé Dirt for Art's Sake, ce que j'aurais du mal à traduire. Je sais pas.
Impossible à traduire.
Impossible à traduire.
Pas le livre, le titre.
Oui. L'art pour l'ordure ou l'ordure
ouais,
pour l'art.
Quelque chose comme ça. Oui.
Books on Trial from Madame Bovary to Lolita, qui est donc une enquête sur les procès littéraires, les censures littéraires au XIXe et au XXe siècle. Et Elisabeth Leidensen est professeure à l'Université Columbia. Son titre aujourd'hui est Proust, Balzac et la morale publique.
Merci beaucoup. J'aimerais commencer. Ça marche, ça ? J'aimerais commencer par reprendre un thème que Jacques Dubois.
Mais peut-être. Bon.
Ah. Bon. Ça va encore ? Oui. Ok. J'aimerais commencer par reprendre un thème que Jacques Dubois avait relevé la semaine dernière en citant Roland Barthes, et qui s'impose tout de même dans ce contexte. Il s'agit du petit essai intitulé « Une idée de recherche ». Monsieur Dubois reprit le phénomène dont il est question dans cet essai en parlant de « solution biscornue ». Il s'agit, vous vous en souvenez sans doute, de cet immense réseau de renversements dans le roman. Par exemple, la personne que le héros prend pour une tenancière de maison close se révélant être la princesse Sherbatov, dame d'honneur de la grande duchesse Eudoxie, Barthes en fournit sept autres exemples en observant que la série s'avérerait sans doute être infinie si toutefois on essayait d'en faire un bilan exhaustif, activité qu'il recommande néanmoins, ou du moins qu'il suppose inévitable parmi les chercheurs. Et il est vrai qu'on pourrait commencer tout au début de Combray, où, comme le constate Barthes, les renversements incluraient non seulement le père sévère qui se transforme subitement en père complaisant, mais aussi Swann lui-même, dont le héros malheureux suppose qu'il le trouverait ridicule s'il savait combien il souffre d'être privé de la présence de sa mère, alors que, en fait, Swann est réellement la personne la mieux placée pour le comprendre, comme un amour de Swann est là pour nous le démontrer. D'ailleurs, même l'exemple de la princesse Sherbatov, tenancière de bordel, est annoncé dès les premiers volumes en la personne de la dame aux Champs-Élysées qui lit le journal des débats et que le héros, déjà incapable de faire ce genre de distinction sociale, prend pour une duchesse amie de la famille Swann, alors qu'elle n'est en réalité que la tout sauf glorieuse Madame Blatin. Or, Barthes nous signale que la formule qui semblerait s'imposer et dont je viens de me servir, à savoir le « ne que » de la réduction, n'est pas tout à fait ce qui convient dans le roman proustien. Car du fait d'avoir été prise pour une tenancière de bordel, la princesse Sherbatov va fatalement, au moins pour le narrateur et donc tout court, puisqu'on ne sort jamais de son monde, conserver quelques traces de son infâme identité passagère et illusoire. Ce qui semble être un « ne que » perd sa faculté de réduction chez Proust pour devenir plutôt ou aussi un « est aussi ». Au cours de sa discussion, Barthes constate que, je cite, « l'inversion comme forme », et le mot est en italique, « envahit toute la structure de la recherche ». Fin de citation. Il souligne le mot « forme » parce que, bien entendu, l'inversion comme thème, c'est-à-dire l'inversion sexuelle ou ce que nous avons coutume d'appeler l'homosexualité, envahit le roman de manière tout aussi insistante. Et il est assez évident que les deux formes d'inversion, structurelle et thématique, sont liées, comme Barthes l'observe lui-même. Sans doute le renversement le plus ostensible dans la recherche et qui a occasionné le plus de commentaires est celui du baron de Charlus, lequel subit une transformation à la fois graduelle et subite au cours du roman. Cette transformation est en partie graduelle dans la mesure où Charlus nous est présenté au début d'un Combray comme étant notoirement l'amant de Madame Swann et ensuite comme un modèle de virilité hyperbolique avant d'être subitement dévoilé en tant qu'inverti, c'est-à-dire homme-femme, dans la première partie de Sodome et Gomorre. Or, pour le lecteur averti ou relecteur, le système global d'inversion structurale nous aura déjà fait mettre en question la virilité de Charlus du fait même qu'elle nous a été présentée comme étant inconditionnelle et hyperbolique. Similairement, dès que la dame des Champs-Élysées nous est décrite comme une aristocrate représentant le comble de la dignité et certainement une proche amie des Swann, on sait bien qu'elle ne peut être en réalité qu'une personne négligeable. Et de même, la tenancière de Bordel doit nécessairement s'avérer être en réalité la dame d'honneur de la grande duchesse Eudoxie. L'inversion thématique ne fait donc que suivre les lois de l'inversion formelle, comme le note d'ailleurs Barthes. Et je cite encore du même essai, « l'inversion sexuelle est à cet égard exemplaire, écrit-il, mais non forcément fondatrice, puisqu'elle donne à lire dans un même corps la surimpression de deux contraires absolus, l'homme et la femme. » Fin de citation. Mais avant de reprendre cette idée d'inversion thématique, je propose de jeter un petit coup d'œil sur un autre exemple de renversement, paradoxe corporel lui aussi, quoique non du même ordre, pour voir dans quelle mesure les lois de l'inversion et du paradoxe proustien sont immuables. Il s'agit des yeux de Gilbert Swann, tel que décrit dans Combray. J'évoque ce passage parce qu'il semblerait représenter une exception à la règle du renversement proustien. La scène se passe au milieu de cette première partie du premier volume, dans la section qui porte justement du côté de chez Swann. C'est juste avant notre première et brève vision de Charlus, en la personne d'un monsieur habillé de coutille et que je ne connaissais pas, qui fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la tête. Ce dernier détail étant censé nous revenir des centaines, voire milliers de pages plus loin, lorsqu'on commencera à se poser des questions sur cette prétendue virilité dont le baron est si imbu. À la page précédente, donc, on fait la connaissance de Gilbert Swann, décrite de la manière suivante. C'est une fillette d'un blond roux qui avait l'air de rentrer de promenade et tenait à la main une bêche de jardinage, nous regardait, levant son visage semé de taches roses. Et voici la phrase que je voudrais souligner. Ses yeux noirs brillaient, et comme je ne savais pas alors, ni ne l'ai appris depuis, réduire en ces éléments objectifs une impression forte, comme je n'avais pas, ainsi qu'on dit, assez d'esprit d'observation pour dégager la notion de leur couleur, pendant longtemps, chaque fois que je repensais à elle, le souvenir de leur éclat se présentait aussitôt à moi comme celui d'un vif azur, puisqu'elle était blonde, de sorte que, peut-être si elle n'avait pas eu des yeux aussi noirs, ce qui frappait tant la première fois qu'on la voyait, je n'aurais pas été, comme je le fus, plus particulièrement amoureux en elle de ses yeux bleus. Fin de citation. Cette phrase est tout à fait exemplaire de plusieurs tendances chez Proust. La longueur et la complication syntaxique de la phrase, qui comporte sa propre péripétie, puisqu'elle commence par « ses yeux noirs » pour terminer sur « ses yeux bleus », bien qu'il s'agisse des mêmes yeux, tout est exemplaire ici, on a l'impression que c'est du Proust au carré. C'est la structure du temps perdu, temps retrouvé en miniature. En outre, cette phrase représente à première vue une bonne illustration du principe esthétique qui sera associé plus tard avec l'impressionnisme du peintre Elstir, ainsi qu'en littérature avec le couple inattendu de Dostoïevski et Madame de Sévigné, à savoir le fait de présenter les choses dans l'ordre de la perception de l'observateur plutôt que selon leur réalité objective. Bref, cela semblerait être la phrase proustienne par excellence, et pourtant, elle paraît enfreindre les règles de l'inversion commentées par Barthes. D'abord, la phrase commence par « ses yeux noirs » pour n'introduire « ses yeux bleus » qu'après, c'est-à-dire qu'il s'agit de la réalité objective suivie par l'illusion, ce qui est à l'opposé du système habituel. Ensuite, contrairement à tous les exemples d'inversion formelle ainsi que thématique, celui de Charlus qui se révèle être un homme-femme, ainsi que la princesse Sherbatov qui doit tout de même avoir un côté louche pour qu'on ait pu la prendre pour une tenancière de bordel, il n'y a pas de simultanéité possible ici. On peut très bien trouver du bleu noir sous la forme d'encre Waterman, par exemple, mais les yeux sont plus difficiles, puisqu'en fait, noir est en général une convenance pour brun foncé en ce qui concerne la couleur des yeux en littérature. Et bon, je ne parle pas de la couleur des yeux dans la vie, hein. On peut très bien avoir des yeux bleu-noir dans la vie, mais on est dans le royaume de la littérature qui est tout à fait différent. Ce que Barthes constate à propos du « ne que » ostensible, c'est-à-dire que cela devient dans le monde proustien un véritable « et aussi », cela ne marche pas ici. Les yeux de Gilberte ne peuvent pas être simultanément noirs et bleus. Ils sont d'abord bleus, ensuite noirs pour les héros, noirs et ensuite, dans l'ordre de la narration, prétendument bleus, c'est-à-dire bleus à force d'être noirs. Mais laissons de côté les yeux de Gilberte pour le moment pour revenir au thème de l'indécence proustienne. On va les reprendre, hein. Craignez rien. Comme tout le monde le sait, le sujet de l'homosexualité préoccupait beaucoup l'auteur. Ce n'est pas par hasard qu'il a planté en plein milieu de Combray non seulement le détail incompréhensible, sinon à la relecture, des yeux exorbités de Charlus déjà cités, mais surtout la fameuse scène de Montjouvain, au cours de laquelle le jeune héros observe par la fenêtre les étranges ébats amoureux de Mademoiselle Vinteuil et son amie. Cette scène, qui combine saphisme et ce que le narrateur nomme sadisme, en l'occurrence il s'agit de la profanation d'une photographie, est non seulement bizarre en elle-même, mais de surcroît, elle attire l'attention du lecteur à force de sembler déplacée. Le passage, qui a attiré l'opprobre de plusieurs correspondants au moment de la parution de Du côté de chez Swann, mais ne fut l'objet que d'un seul commentaire publié, est là pour annoncer l'importance que ce thème devait prendre dans les volumes à venir. Et je tiens à ajouter entre parenthèses que le seul critique à faire un commentaire sur la scène de Montjouvain au moment de la parution de Du côté de chez Swann, c'était une remarque élogieuse dans un article écrit par Willy Henri Gauthier-Villard, le mari de Colette, et Proust. C'était une remarque élogieuse, mais qui louait le côté un peu lubrique de la scène. Et donc Proust a demandé à Jacques Rivière de ne plus lui envoyer de texte parce que c'était très gentil, mais ça suffisait maintenant. Il ne voulait plus de commentaires de ce genre. Or, il était également vraiment vexé par les commentaires négatifs qu'il a reçus dans des lettres à la même époque. Or, le côté de Sodome et Gomorre n'a pris l'ampleur considérable qu'on lui connaît que par la suite de la guerre. Au début, Proust avait beaucoup hésité à en parler, il semblait torturé de doutes à ce sujet. On connaît par exemple la fameuse lettre qu'il écrit à Louis d'Albufera en mai 1908 pour lui faire part de ses projets littéraires, parmi lesquels il mentionne un essai sur la pédérastie, avec un P majuscule, pas facile à publier. C'était l'époque de l'affaire Hollembourg, scandale germanique qui avait renouvelé la tension qu'avaient suscité les procès d'Oscar Wilde dans les années 1890. L'homosexualité était, pour ainsi dire, dans l'air, ainsi que présente dans la littérature populaire, mais aucun auteur sérieux depuis Balzac n'avait osé affronter ce sujet en tant que tel. L'exemple de Balzac n'était jamais loin de l'esprit de Proust, surtout en ce qui concernait ce thème. Certes, l'homosexualité féminine était un sujet à la mode tout au long du XIXe siècle en France. On le retrouve chez Balzac, dans La fille aux yeux d'or, notamment, que Gilberte est en train de lire dans les derniers volumes de la recherche, chez Théophile Gautier, notamment dans Mademoiselle de Maupin, qui date de à peu près de la même époque, 1835. Baudelaire, bien entendu, qui voit ces femmes damnées condamnées une deuxième fois par le procureur impérial. En peinture, plusieurs tableaux de Courbet refusés par le salon et que vous avez pu voir récemment dans cette exposition au Grand Palais. Et il y avait surtout ce tableau qui s'intitule Paresse et luxure, je crois, qui était... à l'étage à cette exposition était refusé par le salon, a créé un scandale et qui s'était inspiré des lesbiennes des Fleurs du Mal. Ensuite, pour ne mentionner que des exemples les plus connus de nos jours, il y a les amis de Verlaine et les courtisanes de Zola. Et puis, à la fin du siècle et au début du XXe, Auguste Rodin produit un nombre vertigineux de dessins et d'aquarelles représentant des femmes enlacées dans toutes sortes de positions invraisemblables. Enfin, l'année 1900 voit la publication de Claudine à l'école, roman léger bien sûr, mais qui crée un nouveau type de jeune fille à la fois vierge et dévergondée, suivie d'autres aventures de l'héroïne, notamment Claudine en ménage, qui aurait très bien pu s'intituler Claudine en ménage à Troyes, en 1903, et ainsi de suite. Et c'est à cause de ces romans que Proust était tellement horrifié à l'idée que Willy allait continuer à faire l'éloge de Mademoiselle Vinteuil, etc. Mais personne avant Proust n'ose suivre l'exemple de Balzac en ce qui concerne les histoires d'amour entre hommes. L'immoraliste que Gide publie vers 1902 et qui aujourd'hui s'annonce très clairement comme une histoire de ce qu'on appelle en français le coming out, se lisait à l'époque comme un récit strictement philosophique, et d'ailleurs Gide diffère la publication de Coridon, son dialogue socratique sur ce qu'il appelle fièrement la pédérastie, jusqu'à après celle de Sodome et Gomorre, réticence qu'il regrettera jusqu'à la fin de ses jours, ainsi d'ailleurs que le refus du côté de chez Swann. L'ombre de Balzac plane donc sur le développement de ce qui deviendra à la recherche du temps perdu. Vers la même époque, où Proust écrit la lettre sur son projet d'essai, d'écrire un essai sur la pédérastie, pas facile à publier, il écrit des notes à ce propos dans son cahier, et c'est le cahier numéro 49, et les précisions sur ce sujet se trouvent dans les préfaces et les notices dans l'édition Folio de Sodome et Gomorre, ainsi que dans l'édition de la Pléiade. Il s'agit du choix de terminologie qui trouve difficile. L'affaire Lambourg ayant diffusé le mot homosexuel, selon lui, en français, Proust veut surtout éviter celui-ci. Il opte donc pour le terme inverti, faute de mieux. Le seul mot qui lui conviendrait vraiment, dit-il, est celui dont se sert Balzac dans Splendeurs et misères des courtisanes. C'est tante qui devait prêter son titre au texte qui finit par s'intituler non pas « La race des tantes », mais « La race maudite ». Voilà, voici ce que Proust écrit à propos du mot « tante » dans son cahier vers 1908. Ce terme conviendrait particulièrement dans tout mon ouvrage où les personnages auxquels il s'appliquerait, étant presque tous vieux et presque tous mondains, ils seraient dans les réunions mondaines où ils papotent, magnifiquement habillé et ridiculisé. Cette phrase n'est pas grammaticalement correcte dans le texte, ce n'est pas ma faute, c'est Proust qui fait ça. Les tantes, continue-t-il, les tantes, on voit leur solennité et toute leur toilette rien que dans ce mot qui porte jupe. On voit dans une réunion mondaine leur aigrette et leur ramage de volatiles d'un genre différent. Mais le lecteur français veut être respecté, et n'étant pas Balzac, je suis obligé de me contenter d'inverti. Fin de citation. Vous aurez reconnu, bien entendu, mais le lecteur français veut être respecté comme une citation de Boileau. Je vous rappelle le contexte dans son art poétique. Le latin dans les mots brave l'honnêteté, mais le lecteur français veut être respecté. Du moindre sens impur, la liberté, l'outrage, si la pudeur des mots n'en adoucit l'image. Je veux dans la satire un esprit de candeur et fuis un effronté qui prêche la pudeur. Ces derniers vers viennent à propos, me semble-t-il, et non moins puisqu'on a lu la recherche, surtout les volumes qui portent sur la mondanité et l'inversion, comme comprenant une forte dose de satire, ce qui est vrai, même si la réputation de chef-d'œuvre solennel a eu tendance depuis à éclipser le côté très humoristique du roman. Et dans ce contexte, je pense toujours à un étudiant de première année, l'année dernière à Columbia, qui faisait des études de littérature anglaise et qui m'a dit qu'il avait entendu parler de Proust et qu'il voulait absolument lire Proust, mais ça l'intimidait. Est-ce que je pouvais lui donner des conseils? Donc je lui ai donné Du côté de chez Swann, traduit en anglais, et donc il était ravi, il est parti. Un mois plus tard, j'ai reçu un message disant: j'ai lu Du côté de chez Swann, j'ai trouvé ça très bien, mais j'ai trouvé ça drôle. Est-ce que j'ai eu tort? Il voulait vraiment savoir s'il avait eu tort, parce qu'il était prêt à relire le roman sans trouver ça drôle, en fait, une deuxième fois, si je lui disais que c'était pas comme ça qu'il fallait le prendre. En tout cas, la raison pour laquelle Proust ne peut pas se servir du seul mot qui lui conviendrait, vraiment, semblerait donc qu'il faut respecter les règles classiques de la bienséance, du moins lorsqu'on n'est pas Balzac. Reste à savoir ce que signifie être Balzac. À première vue, on pourrait croire qu'être Balzac, c'est être un grand écrivain avec une réputation déjà en place, et sans doute il y a de cela dans cette lamentation. D'ailleurs, on voit combien Proust prend de la hardiesse en écrivant des volumes de plus en plus explicites, où il est de plus en plus question de sexualité, de plus en plus exotique, comme par exemple les étranges relations que semble entretenir Morel, l'amant de Charlus, avec les femmes, avec Albertine, pour qui à un moment donné il est censé procurer des jeunes filles, et surtout avec Léa, la comédienne connue pour son goût exclusif pour les femmes, mais qui a néanmoins des relations sexuelles avec Morel, qu'elle semble traiter incompréhensiblement comme une lesbienne, si ce n'est comme un lesbien, que sais-je. Certes, je ne peux pas m'empêcher de dire que on a intitulé ce livre Proust lesbien en français, mais c'était le choix de l'éditeur, et je voudrais dire publiquement que je ne sais pas ce que ça veut dire. Certes, Balzac ne va jamais aussi loin que cela, aussi loin que Morel. Mais au moment où Proust publie, à titre posthume, il faut dire, les volumes contenant ces scènes insolites, il est effectivement parti pour être Balzac, pour ainsi dire, du moins au niveau de la réputation littéraire. L'autre possibilité qui semblerait s'imposer de manière évidente pour expliquer ce que Proust veut dire lorsqu'il se plaint en disant que n'étant pas Balzac, il ne jouit pas de la possibilité de se servir du mot « tante », et tout simplement qu'il ne voulait pas qu'on le prenne, lui, pour une tante. Employer un tel jargon, même s'il se trouve dans les pages des Splendeurs et Misères des courtisanes, impliquerait éventuellement une connaissance un peu trop profonde du milieu où l'on se sert d'un tel vocabulaire, ce que Balzac pouvait sans doute se permettre, puisqu'il était lui-même, du moins en principe, au-delà de tout soupçon de cette espèce. D'ailleurs, l'homosexualité n'étant qu'une aberration parmi tant d'autres traitées dans la comédie humaine, alors que ce sujet devait prendre une ampleur importante dans la recherche, Proust pouvait d'autant moins que son prédécesseur se permettre une telle liberté de vocabulaire. Ces deux explications sont, à mon avis, assez convaincantes, mais non suffisantes. Avant de pouvoir comprendre pleinement ce à quoi Proust pensait en se plaignant de ne pas être Balzac, il est utile de revenir en arrière, en l'occurrence au roman inachevé qui a été publié pour la première fois dans les années 50 par Bernard de Fallois sous le titre « Jean sans taille », mais sur lequel Proust avait travaillé dans les années 1890 avant de l'abandonner pour entreprendre la traduction de Ruskin. Jean sans taille ressemble avant tout à une version primitive de la recherche qu'on aurait broyée dans un cuisinard. C'est-à-dire que presque tout y est, souvent sans ordre apparent, reconnaissable, mais des éléments inextricablement mélangés ensemble. Presque tout y est, mais pas tout. Il manque Sodome. L'on aperçoit brièvement une ébauche discrète et très approximative de Charlus, et il y a un soupçon de Gomorre dans l'interrogatoire auquel Jean soumet Françoise, laquelle finit par avouer qu'elle a toujours été comme ça et qu'elle a couché avec son amie Charlotte, après quoi Jean congédie Françoise pour poursuivre Charlotte. Il va se comporter de cette façon dans la recherche avec Albertine et André aussi. Cette scène réunit diverses couches de l'œuvre proustienne. On reconnaît sans difficulté une esquisse de plusieurs scènes de questionnement entre Swann et Odette, et plus tard le héros avec Albertine. Le couple Françoise-Charlotte anticipe également les rapports, encore une fois, entre Albertine et André, avec l'intérêt du héros pour celle-ci une fois qu'elle aura reconnu avoir eu des relations avec celle-là. Or, il est vrai aussi que le discours plein de culpabilité et d'horreur envers ses propres tendances que tient Françoise lorsqu'elle passe aux aveux ne ressemble à aucune parole prononcée par les personnages gomoréens de la recherche, mais plutôt et de manière marquée à des observations sur l'homosexualité masculine dans les passages prétendument scientifiques de l'œuvre. Donc, Jean sans taille contient très peu sur l'homosexualité, ce qui n'est pas surprenant étant donné les conditions à la fois personnelles et historiques de sa genèse. Proust l'écrivait non seulement du vivant de ses deux parents, mais à une époque qui devait l'en décourager, même si sa situation familiale ne l'avait pas déjà fait. C'était le moment même des procès qui devaient conduire Oscar Wilde à une mort prématurée. Oscar Wilde, à propos de qui Proust écrit dans une lettre, toujours en mai 1908, moment où il médite sérieusement sur la possibilité de traiter ce sujet, cette fois-ci la lettre étant adressée non à Louis Albuferum et à Robert Dreyfus, il dit, je cite, « Comme Oscar Wilde, disant que le plus grand chagrin qu'il avait eu, c'est la mort de Lucien de Rubempré dans Balzac, et apprenant peu après son procès qu'il ait des chagrins plus réels. » Et cette même observation sera reprise dans Sodome et Gomorre, dans la bouche de Charlus, passage sur lequel je reviendrai, et en fait c'est le même passage que vous avez cité tout à l'heure, c'est le passage où le docteur Cotard, et je crois d'ailleurs que c'est un peu le Gnotti Sauton, il faut se connaître, enfin connais-toi toi-même et le... que sais-je, sont un peu des références aussi au fait que Charlus est en train de se dévoiler en principe à son insu. Je reviendrai sur cette scène dans laquelle Wilde, exactement la même phrase presque est reprise que ce que je viens de citer, mais Wilde y devient « Je ne me rappelle pas quel homme de goût » et la mention de ses propres chagrins est supprimée. Enfin, au moment où Proust écrit Jean sans taille, l'affaire Lambourg n'a pas encore eu lieu, Gide n'a pas encore publié l'immoraliste, ni Colette, ou plutôt Willy les Claudines, ni Francis Carcot, Jésus Lacaille, ni Binet Valmer sont Lucien. À vrai dire, à ce moment-là, en tant que littérature portant sur l'homosexualité masculine en français, il n'y a pratiquement que Balzac. Or, Jean sans taille, même s'il est très discret sur ce sujet ainsi que d'autres, contient un élément qui va disparaître entièrement de la recherche. L'une des caractéristiques les plus incommodes pour ceux qui s'obstinent à lire l'œuvre majeure de Proust comme une autobiographie légèrement voilée est l'absence totale d'école. Le héros va au collège, on le sait par une ou deux vagues mentions en passant, mais pas une seule fois ne décrit-il ce qui se passe à l'école, ce qui est tout de même étrange pour un récit prétendument autobiographique et qui insiste longuement sur l'enfance. On n'a qu'à penser aux mémoires portant sur la même époque, sans doute l'exemple le plus flagrant étant « Si le grain de meurt » de Gide, où l'école prend une importance qui paraîtrait démesurée si l'expérience de l'école ne prenait pas une importance semblable dans la mémoire de n'importe qui l'ayant fréquentée. On sait que Proust a effectivement été à l'école et il est possible qu'il ait omis d'en parler dans la recherche justement pour éviter d'évoquer le genre de souvenir qui est en question dans les très explicites mémoires de Gide que Proust ne lira pas puisqu'elles seront publiées après sa mort. L'une des grandes différences donc entre Jean Santeuil et la recherche est que dans le premier, nous avons tout un chapitre sur les expériences de Jean à l'école. Il y est question de ses professeurs, bien entendu, et aussi des moqueries qui lui sont infligées par ses camarades. Bref, il semblerait, d'après ce qu'on sait des expériences de Proust lui-même à l'école, que celles de Jean sont, comme presque tout dans cette ébauche de roman, très près de la réalité biographique. C'est d'ailleurs sans doute pour cette raison que c'est resté à l'état d'ébauche. Contrairement à Proust, Jean ne passe pas son temps à essayer de séduire ses camarades à coups de citations de Socrate et de Montaigne. Mais Jean Santeuil contient quelque chose que la recherche esquive entièrement en supprimant l'école, à savoir une amitié passionnée avec un autre garçon. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui séduit Jean en se servant justement de citations de Montaigne. On voit clairement le fantasme en marche, quoique pudiquement, voilé, ses propres désirs projetés sur l'autre, comme ce thème avec Gilberte lorsque le héros imagine une lettre que Gilberte lui aurait écrite, lui expliquant pourquoi, enfin, non seulement qu'elle l'aime passionnément, mais pourquoi elle n'a pas pu le dévoiler jusque-là. C'est avec cet autre garçon qui s'appelle Henri de Réveillon que ça se passe dans Jean Santeuil. Donc, l'épisode avec Henri de Réveillon sera repris dans le roman définitif, ces éléments éparpillés entre cette passion pour Gilberte, laquelle est également anticipée de manière plus reconnaissable sous forme de Marie Kosichev, et l'amitié avec Robert de Saint-Lô. Dans la recherche, par contre, le chapitre de l'amitié avec Saint-Lô est encadré, on se souvient, par un grand discours contre l'amitié, sous prétexte que celle-ci distrait à la fois du travail et de l'amour, elle est inutile, etc. Il n'est pas difficile de discerner sous ce réquisitoire contre l'amitié, surtout étant donné l'éloge dithyrambique de la beauté divine de Saint-Loup, un effort de conjurer toute lecture érotique, c'est-à-dire d'empêcher qu'on puisse trouver de la passion dans cette amitié passionnée. Il est donc évident qu'entre Jean Santeuil et la recherche, Proust a décidé qu'il fallait éviter à tout prix de se compromettre en décrivant une amitié comme celle d'avec Henri de Réveillon, dans Jean Santeuil. Je crois qu'il est probable que les mêmes conditions qui lui ont permis de parler ouvertement d'homosexualité, ou plutôt d'inversion, sont également celles qui lui ont défendu d'évoquer l'amitié entre hommes, puisque, après tout, il n'était pas Balzac. Splendeurs et misères des courtisanes est le roman balzacien qu'on évoque en parlant du Sodome de Proust, parce que c'est là qu'on trouve le mot tante, c'est là qu'on trouve la représentation la plus directe de l'homosexualité masculine, et c'est là qu'on trouve la mort de Lucien de Rubempré qui avait tant ému Oscar Wilde avant qu'il ne découvre que la vie lui réservait un sort moins pittoresque, quoique non sans rapport avec la fin de Lucien. Mais dans la scène dans Sodome et Gomorre, dans cette même scène qui a déjà été évoquée, où Charlus vante les beautés de la comédie humaine, il recommande vivement au héros la lecture du volume précédent, Illusion perdue. Et je voudrais suggérer que c'est dans ce roman-ci que nous pouvons trouver ce à quoi Proust pense lorsqu'il dit qu'il n'est pas Balzac. Illusion perdue plus que splendeurs et misères des courtisanes, représente une clé utile pour le déchiffrement de l'œuvre proustienne. Je suis loin d'être la première à en avoir reconnu la pertinence, certes, on n'a qu'à lire le titre qui aurait pu servir tout aussi bien pour la recherche du temps perdu, ainsi d'ailleurs que pour Jean Santeil. Et puisque le jeune Lucien de Rubempré veut à tout prix se consacrer à une grande carrière littéraire, pour ensuite rencontrer toutes sortes de diversions malsaines qui l'empêchent d'y parvenir, partagé comme il est entre une ambition sans bornes et un goût fatal pour la facilité et la mondanité, on voit évidemment en quoi ce roman peut nous être instructif dans nos pérégrinations dans le monde proustien. C'est dans Illusion perdue qu'on trouve, je crois, la réponse à plusieurs questions. Je pense notamment à la suppression du discours positif sur l'amitié entre garçons dans la recherche, ainsi que, du même coup, ce que Proust veut dire quand il se déclare ne pas être Balzac. Rappelons que le roman s'ouvre sur l'imprimerie Séchard à Angoulême pour se concentrer assez vite sur l'amitié du jeune David Séchard avec son camarade de collège, Lucien Chardon, qui va devenir Lucien de Rubempré. Cette amitié est décrite dans les termes suivants. Je cite du début de l'Illusion perdue. « Vivement séduit par le brillant de l'esprit de Lucien, David l'admirait tout en rectifiant les erreurs dans lesquelles le jetait la furie française. Cet homme juste avait un caractère timide en désaccord avec sa forte constitution, mais il ne manquait point de la persistance des hommes du Nord. S'il entrevoyait toutes les difficultés, il se promettait de les vaincre sans se rebuter. » Et s'il avait la fermeté d'une vertu vraiment apostolique, il la tempérait par les grâces d'une inépuisable indulgence. Dans cette amitié déjà vieille, l'un des deux aimait avec idolâtrie, et c'était David. Ainsi Lucien commandait-il en femme qui se sait aimée. David obéissait avec plaisir. La beauté physique de son ami comportait une supériorité qu'il acceptait en se trouvant lourd et commun. La beauté physique de Lucien est d'ailleurs un leitmotiv dans le roman qui nous la rappelle constamment sous forme de commentaires narratifs ainsi que d'exclamations poussées par tous les personnages qu'il rencontre. C'est à la fois son grand atout, réflexion de sa pureté d'âme, du moins au début, et ce qui va le perdre. L'appréciation chez David des charmes physiques de son ami n'a pourtant rien d'érotique. Pas un seul instant est-ce que le lecteur ne prend leur relation pour quelque chose de louche, et cela malgré le fait même que le passage que je viens de citer compare ouvertement leur amitié à une relation amoureuse. Mais, enfin, malgré le, comme Proust le dit à un moment donné, tous les quoique sont des parce que méconnus, enfin là, malgré le fait que le passage compare leur amitié à une relation amoureuse, c'est pour cette raison aussi que le lecteur comprend que ce n'est pas ça. Par la suite, David va épouser la sœur de Lucien, lequel quittera le lit de Madame de Bargeton uniquement pour entrer dans celui de l'actrice Coralie. Mais au moment où on lit ce passage sur l'amitié entre les deux garçons, on ne sait rien de tout cela. En outre, la beauté de Lucien est résolument présentée comme étant une beauté féminine. En cela, il ressemble beaucoup au Julien Sorel de chez Stendhal. Donc, malgré ce qui peut nous sembler un discours clairement érotique sur l'amitié entre hommes, il n'en est rien. Comme dans Le Rouge et le Noir, la féminité du protagoniste ne suggère nullement, comme elle aurait fait 100 ans, voire 50 ans plus tard, à l'époque de la sexologie, une tendance à l'homosexualité, mais plutôt une certaine aristocratie naturelle avec un brin de décadence. Or, chez Balzac, le roman s'achève sur la rencontre de Lucien, qui a maintenant ruiné sa famille et cherche à se suicider, avec un prétendu abbé espagnol qui lui sauve la vie, mais en échange de son âme, car il s'agit en réalité de Vautrin. Il va devenir le mignon de celui-ci dans Splendeurs et misères des courtisanes, avec les conséquences fatales que vous savez. Dans la scène dans Sodome et Gomorre, cette même scène où Charlus chante les louanges de Balzac, s'il recommande la lecture des Illusions perdues au jeune héros, c'est parce que ce dernier ne l'a pas lu. Le héros ne l'a pas encore lu, mais l'auteur, lui, le connaît bien et en avait tiré des conclusions. Car tant que le jeune homme n'a pas lu le roman, il ne peut pas reconnaître ce que reconnaît le lecteur, à savoir qu'en lui parlant des illusions perdues, ainsi que des splendeurs et misères des courtisanes, Charlus est visiblement en train d'effectuer une séduction balzacienne en abîme, jouant lui-même le rôle de Vautrin qui lui sied si bien, avec le héros sauvé du sort de Lucien de Rubempré, ici et ailleurs, par son ignorance même. Puisque du moment où il n'a pas lu le roman, il est libre de jouer son rôle passif dans cette scène sans jamais faire allusion à son caractère de mise en abîme, de tentative de séduction pédérastique sur sa personne. Ce n'est d'ailleurs pas la seule forme de mise en abîme dans ce passage. Il commence ainsi, je cite, « Quand M. de Charlus ne parlait pas de son admiration pour la beauté de Morel comme si elle n'eût aucun rapport avec un goût appelé vice, il traitait de ce vice, mais comme s'il n'avait été nullement le sien. Parfois même, il n'hésitait pas à l'appeler par son nom. Comme après avoir regardé la belle reliure de son Balzac, je lui demandais ce qu'il préférait dans la comédie humaine, il me répondit, dirigeant sa pensée vers une idée fixe. » Fin de citation. Et c'est là qu'il se met à chanter les louanges des scènes telles que celles à la fin des Illusions perdues, où Vautrin passe devant le château de Rastignac en compagnie de Lucien, se souvenant du jeune homme qui lui a échappé devant celui qui ne lui échappera point. La situation est structurellement applicable à la scène qui est en train de se dérouler, applicable de plusieurs manières d'ailleurs, avec Morel et le héros jouant alternativement les rôles de Rastignac et de Rubempré, ça devient un peu compliqué quand même, puisque chacun lui succombe et chacun lui échappe à sa manière, et donc on pourrait faire beaucoup de commentaires là-dessus. Mais en fait, c'est surtout la première phrase qui m'intéresse ici, encore une fois, quand M. de Charlus ne parlait pas de son admiration pour la beauté de Morel, comme si elle n'eût aucun rapport avec un goût appelé vice, il traitait de ce vice, mais comme s'il n'avait été nullement le sien. Et puis, parfois même, il n'hésitait pas à l'appeler par son nom. Nous avons vu que Proust a beaucoup hésité pour savoir comment il fallait nommer ces choses-là pour quelqu'un qui n'était pas Balzac. Plus loin, lorsque Charlus a prononcé le mot « pédérastie », le narrateur commente « Au mot tiré du grec dont M. de Charlus, parlant de Balzac, avait fait suivre l'allusion à la tristesse de l'impio dans Splendeurs et misères, en fait, il s'agit d'illusions perdues et non pas de Splendeurs et misères, mais bon. Ski, Brichot et Cottard s'étaient regardés avec un sourire peut-être moins ironique qu'empreinte la satisfaction qu'auraient des dîneurs qui réussiraient à faire parler Dreyfus de sa propre affaire ou l'impératrice de son règne. Charlus représente donc non seulement le Vautrin de la recherche, mais parmi d'autres choses, une vaste mise en abîme de la position de l'auteur vis-à-vis de ce côté post-balzacien de son œuvre. En disant qu'il ne peut pas employer le mot « tante » parce qu'il n'est pas Balzac, Proust veut dire, je crois qu'il est assez clair, qu'il s'est rendu compte qu'il peut désormais se permettre de publier cet essai sur la pédérastie, ou plutôt l'inversion, pour employer son terme de service qui implique une féminité foncière chez l'inverti. Or, il ne peut le faire qu'en sacrifiant, par exemple, l'éloge de l'amitié qu'on trouve dans Jean Santeuil et en le remplaçant par une rigoureuse désapprobation à la Charlus, telle qu'on voit celui-ci au premier abord, déplorant la mollesse des jeunes gens d'aujourd'hui, refusant qu'un homme porte une seule bague, et ainsi de suite. L'auteur a compris que l'époque de Balzac est révolue et que lui, Proust, ne peut plus mettre dans un seul volume, comme le fait Balzac, une amitié tendre, quoique chaste, entre garçons au début et une séduction entre hommes à la fin. Mais en prenant conscience de ce qu'il faut qu'il fasse pour contourner les nouvelles contraintes de son époque, Proust prend soin aussi de mettre sa situation en abîme dans le roman même, en la personne de Charlus, qui croit pouvoir en parler impunément à condition de le faire à la troisième personne. On se souviendra à ce propos des fameuses paroles de Proust rapportées dans le journal d'André Gide du 14 mai 1921, je cite, Je lui apporte Coridon, c'est Gilles qui parle de Proust, je lui apporte Coridon dont il me promet de ne parler à personne. Et comme je lui dis quelques mots de mes mémoires, ce qui va devenir Cide de Grandemeur, vous pouvez tout raconter, s'écrit-il, mais à condition de ne jamais dire je. Et Gide de commenter ce qui ne fait pas mon affaire. En effet, cela n'a jamais fait l'affaire de Gide, et encore moins dans ses mémoires, mais ça fait l'affaire de Proust jusqu'à un certain point. Qu'il fut conscient des limites de cette approche est clairement inscrit dans le comportement de Charlus. Et l'ironie, j'ajouterai entre parenthèses que l'ironie du sort a voulu tout de même que ce n'était pas la publication de Salomé Gomorre qui aura fait jaser les critiques à propos de l'idée que les jeunes filles en fleurs n'étaient en réalité que, on voit que les critiques n'avaient pas lu Barthes, n'étaient en réalité que des garçons en travestis textuels, autant que celle de la prisonnière, car c'était surtout la séquestration d'une jeune fille de bonne famille qui leur semblait invraisemblable et qui a produit toute cette idée que toutes les femmes de la recherche sont en fait des hommes. On a même parlé de Françoise, bizarrement, Françoise de recherche, non pas Françoise de Jean Santeuil. Mais donc, pour revenir à cette idée que vous pouvez tout raconter, mais à condition de ne jamais dire « je », ici aussi, il faut dire, c'est Balzac qui lui aurait montré le chemin. Car Lucien de Rubempré, né Lucien Chardon et Illusion perdue, est entre autres histoires, l'histoire de ses efforts pour obtenir une ordonnance du roi afin de pouvoir porter le nom aristocratique de sa mère en toute légitimité. Il ne réussira en fait que dans le volume suivant, ou plutôt entre les deux romans, grâce à Vautrin. Mais ce qui importe dans ce contexte, c'est le fait qu'Honoré de Balzac, né Honoré Balzac tout court, et d'un père qui était lui-même né Balsa, consacre toute une intrigue aux efforts de son héros pour s'octroyer une particule. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Lucien en a approximativement le droit, mais on rencontre d'autres personnages qui ne l'ont pas du tout, et on assiste à des scènes, par exemple, entre Lucien de Rubempré et Sixte du Châtelet, où les deux s'envoient des piques en se saluant froidement par leur vrai nom, Monsieur Chardon, Monsieur Châtelet. Balzac anticipe donc Proust en mettant en abîme ses propres prétentions, et on se rappelle à ce propos la verte indignation de l'auteur de la recherche devant les propos du critique Paul Soudé, qui parlait du snobisme de Proust qui transparaissait dans Le Côté de Guermantes. Proust répond en protestant que lui-même, à la grande différence de son héros, avait connu des duchesses de Guermantes toute sa vie et que s'il avait vraiment été snob, il n'aurait pas osé dépeindre le snobisme du point de vue du snob même. Il faut être Proust pour trouver un raisonnement aussi alambiqué. Et là aussi, je crois qu'on peut conclure qu'il n'est effectivement pas Balzac. Le temps presse et je commence à avoir l'impression que j'ai ouvert trop de pistes pour pouvoir conclure nettement dans le temps qui me reste, mais je tiens tout de même à ajouter un dernier mot sur la dette de Proust envers Balzac. Il ne s'agit plus d'homosexualité cette fois-ci, mais des fameux yeux de Gilberte que j'avais laissés de côté il y a un bon moment. Vous ne les avez pas perdus de vue, j'espère. On se souviendra que j'ai essayé de démontrer que la description de la couleur des yeux de Gilberte dans Combray, quoique intercalée dans une phrase éminemment proustienne, semblait présenter une exception aux règles de l'inversion structurale ou formelle chez Proust que Roland Barthes a si bien analysé en si peu d'espace. Je propose de conclure en suggérant que c'est peut-être parce que cette description représente encore un emprunt balzacien et les transformations fonctionnent, comme on le voit, on a vu un peu, différemment, très différemment même chez Balzac. Gilberte doit en fait ses yeux à Lucien de Rubempré. Voici la description du visage de Lucien situé au début des Illusions perdues, juste avant le passage sur l'amitié entre lui et David Séchard. Je cite, « Son visage avait la distinction des lignes de la beauté antique. C'était un front et un nez grec, la blancheur veloutée des femmes, des yeux noirs tant ils étaient bleus, des yeux pleins d'amour et dont le blanc le disputait en fraîcheur à celui d'un enfant. Fin de citation. Des yeux noirs, tant ils étaient bleus. Voilà la trace du Balzac que Proust n'est pas. Chez Balzac, il n'y a aucune hésitation, ils sont noirs à force d'être bleus, non seulement dans l'imagination de l'observateur, mais dans la réalité du roman même, parce que chez Balzac, l'observateur et le roman ne font qu'un. Chez lui, il n'y a pas d'ambiguïté entre le « ne que » et le « est aussi », ce qui est impossible chez Proust, car les temps et les mœurs ont changé. Chez Proust, les yeux noirs, tant ils étaient bleus, semble désormais aussi impossible que l'amitié entre garçons. C'est tout.